Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment déjouer les fraudeurs? Un texte de Jean-Luc Lavallée, paru le 25 juin 2024 dans Protégez-vous. Personne n'est à l'abri de la fraude, ce fléau des temps modernes, mais les probabilités que votre nom s'ajoute à la liste des victimes qui croît sans cesse augmentent beaucoup si vous baissez la garde et n'apprenez pas à reconnaître certains signaux. Voilà pourquoi nous avons préparé ce précieux guide pratique illustré par des témoignages de vraies victimes de fraude afin de vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur les filous en détectant leurs stratagèmes. Apprenez-en davantage sur 8 arnaques courantes et le modus operandi des fraudeurs. Pour chacune d'entre elles, nous avons préparé une liste de conseils pratiques afin de contourner les pièges. Découvrez également une foule de ressources utiles dans le troisième volet de notre dossier qui traite notamment du mode de paiement qui vous offre la meilleure protection en cas de fraude et des démarches à faire si vous êtes vous-même victime d'une fraude, le tout accompagné d'un petit répertoire de sites à consulter pour mieux déjouer les escrocs. Partie 1. Cas vécu des victimes de fraude témoignent. À la suite d'un appel à tous, des dizaines de lecteurs de Protégez-vous nous ont raconté leurs mésaventures avec des fraudeurs. Plusieurs ont refusé d'être identifiés de peur qu'on les ridiculise parce qu'ils sont tombés dans le panneau ou craignant d'être à nouveau ciblés par des arnaqueurs. Nous avons respecté leurs souhaits. Leur objectif commun, sensibiliser le public et éviter que d'autres se fassent prendre. Voici un échantillon des témoignages que nous avons reçus. Cas vécu 1. Un enquêteur lui fait acheter des cartes cadeaux. Julie, nom fictif, 54 ans, Montérégie. Montant de la fraude, 3 300 $. Julie est tombée dans le piège du faux enquêteur bancaire, une fraude assez répandue. Au bout du fil, un homme très convaincant et son supérieur disent l'appeler de RBC Visa. Il l'avise qu'elle a été victime de fraude et l'invite à collaborer à l'enquête en effectuant des achats de cartes cadeaux Amazon dans des magasins ciblés pour pouvoir identifier des employés suspects. Tout au long de l'opération visant à démasquer de prétendus fraudeurs, la victime est ironiquement en train d'échanger avec eux sans s'en rendre compte. « J'étais le dindon de la farce, finalement. J'ai appris à vivre avec ma honte, mais ça a été dur à accepter », admet-elle. Heureusement, en agissant rapidement auprès du service à la clientèle d'Amazon, elle a réussi à se faire rembourser près de la moitié des 6 000 $ qu'elle a dépensés. Bien qu'elle ait elle-même fourni à ses interlocuteurs le code d'activation des cartes cadeaux et que ses recours étaient quasi nuls, l'argent de ces cartes n'avait pas encore été entièrement dépensé. Cas vécu 2. De vrai-faux, test de transaction. Benoît, nom fictif, 48 ans, Lévis. Montant de la fraude, 12 500 $. Benoît a été victime d'une autre variante de la fraude du représentant bancaire. Fin 2022, sa carte de crédit est bloquée à la suite d'une transaction suspecte. On lui renvoie une nouvelle carte le 4 janvier. Un mois plus tard, il reçoit un appel d'un homme qui dit être un employé du service de la sécurité chez Desjardins à propos de nouvelles transactions suspectes. Durant l'appel, je reçois divers textos de Desjardins avec des codes à 6 chiffres qu'il me demande de lui donner pour valider mon identité. Ces textos me semblent pareils à ceux que j'ai reçus quand ma carte a été piratée en décembre, alors je trouve que c'est normal. Promettant de lui envoyer une nouvelle carte de crédit, son interlocuteur dit vouloir d'abord faire un test de transaction avec lui, et il l'invite à répondre « oui » à un texto autorisant une première transaction de 1 700 $. Plus tard, il recevra une alerte de changement de mot de passe à son compte accédé. C'est là que j'ai compris que ça n'allait pas bien. J'ai été chanceux. Desjardins m'a tout remboursé, 12 500 $. Je me considère à l'affût de ce genre de choses. Je suis comptable, mais c'est fou comment ça peut arriver vite. Je me mets dans la peau de personnes âgées qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Cas vécu 3. Une annonce bidon sur Marketplace. Stéphane Bastien, 54 ans, Gatineau. Montant de la fraude, 3 450 $. Copropriétaire d'une entreprise de location de chapiteaux. Stéphane cherchait un conteneur maritime et pensait avoir trouvé celui qui lui convenait à un prix raisonnable sur Marketplace. Après de nombreux échanges sur Messenger et 3 versements, le faux vendeur a prétexté un bris de camion pour justifier le retard de la livraison qui n'a finalement jamais eu lieu. Le site web sur lequel la victime avait été redirigée est désormais inactif. Stéphane Bastien n'a jamais récupéré son argent. J'ai envoyé des plaintes partout, mais absolument personne n'a fait de suivi. Que ce soit la police, le Centre antifraude du Canada, le ministère des Finances, le registre des entreprises ou Facebook, se désole-t-il, regrettant d'avoir payé à l'avance son fraudeur par traite bancaire plutôt qu'avec sa carte de crédit. Cas vécu 4. Pas question de payer une rançon. Yvon Dorval, 69 ans, Lavaltrie. Tentative de fraude de 400 $. Il y a environ 4 ans, Yvon a perdu d'un seul coup l'accès à tous les fichiers contenus dans son ordinateur. Des pirates avaient pris le contrôle de son matériel informatique. Ils avaient crypté ses dossiers et lui demandaient un montant d'argent pour les déverrouiller. Les fichiers étaient là, mais je ne pouvais pas y accéder à moins de payer 400 $, raconte-t-il. C'est ce qu'on appelle une attaque par rançongiciel. Pas question de payer cette rançon. Il a préféré reformater son disque dur et s'est résigné à perdre les fichiers qu'il contenait. Je suis spécialisé en audiovisuel. J'avais des photos, de la musique. J'ai perdu beaucoup d'affaires. Mais j'aimais mieux tout perdre que payer, se félicite-t-il, ayant refusé de céder au chantage des pirates. Cas vécu 5. Une carte de crédit pour son fils imaginaire. Bernadette, non fictif, 67 ans, Laval. Montant de la fraude, 2 400 $. Victime d'un vol d'identité, Bernadette a eu toute une surprise quand la Banque nationale l'a contactée pour lui demander si elle avait un fils. Apparemment, une dame avait effectué un changement d'adresse à son insu en s'authentifiant uniquement avec sa date de naissance au téléphone. Elle a ensuite commandé à la nouvelle adresse une carte de crédit Mastercard pour son fils Jérémy, qui n'existe pas. Jérémy s'en est pourtant donné à cœur joie pendant quelques jours en multipliant les achats et les retraits d'argent comptant. Bernadette a finalement été remboursée après plusieurs semaines de laborieuses démarches et elle s'interroge encore sur le peu de précautions prises par sa banque et l'inaction de la police. Personne ne fera d'enquête alors que les fraudeurs ont le beau jeu. Le trouble que ça m'a donné. Depuis que c'est arrivé, j'essaie d'avoir une autre carte de crédit et on me la refuse parce que j'ai été victime de fraude. Ce n'est pas logique, c'est moi la victime, mais je suis pénalisé. Cas vécu 6. Dépouillé par un faux-neveu en détresse. Hélène, non fictif, 85 ans, Dorval. Montant de la fraude, 6 500 $. De nombreux aînés au Québec ont été victimes, dans les dernières années, de la fraude des grands-parents. Généralement, c'est un prétendu petit-fils dans le pétrin qui contacte sa grand-mère ou son grand-père pour obtenir de l'argent de façon urgente afin de payer une caution et de lui éviter la prison. Habile, celui qui est au bout du fil demande si on le reconnaît et lorsque la victime évoque un prénom, le fraudeur utilise cette identité pour établir un lien de confiance. Hélène, elle, n'a aucun petit-fils, mais elle a été dépouillée par un homme qui s'est fait passer pour son neveu au téléphone. Il avait été arrêté pour avoir joué sur son téléphone en conduisant et il était en prison. Je n'ai pas réfléchi et je n'ai pas essayé de le rejoindre après, en le rappelant. Je suis allé à la banque pour retirer 6 500 $. Un complice est ensuite allé chercher chez elle les billets de banque fraîchement retirés du guichet automatique. Mon cœur a parlé et ma tête est restée muette, raconte l'octogénaire qui était moins alerte que d'habitude parce qu'elle vivait un deuil. Je venais de perdre mon frère et c'était son fils qui m'appelait. J'étais trop dans l'émotion. Ça ne me surprendrait pas que les fraudeurs regardent les avis de décès, croit-elle, prévenant les aînés vulnérables de ne pas baisser la garde, comme elle, dans de telles circonstances. La fraude en chiffres au Canada en 2023. 62 365 signalements. 41 111 victimes. 554 millions de dollars en pertes financières. Seulement 5 à 10 % des victimes font un signalement. Source, Centre antifraude du Canada. Vous écoutez « Comment déjouer les fraudeurs », un texte de Jean-Luc Lavallée, paru le 25 juin 2024 dans « Protégez-vous ». Partie 2. Comment repérer et déjouer 8 types de fraudes. Arnaque 1. Les investissements et les crypto-monnaies. En 2023, les stratagèmes de fraude visant les investisseurs sont, de loin, ceux ayant engendré les pertes monétaires les plus importantes au pays. Selon le Centre antifraude du Canada, plus de 300 millions de dollars ont été dérobés de cette façon par des arnaqueurs sans scrupules ayant fait miroiter à leurs victimes des gains rapides et des rendements mirobolants. L'attrait pour les crypto-monnaies, le Bitcoin est le plus connu, a contribué grandement à ce phénomène. Comment ils s'y prennent? Les escrocs utilisent tous les canaux habituels pour vous joindre, appels téléphoniques, courriels, textos. Ils créent un faux sentiment d'urgence et exploitent votre peur de passer à côté d'une bonne affaire. Ils exploitent la méconnaissance des gens au sujet des crypto-monnaies en faisant croire à leurs victimes qu'elles ont cours légal et que leur investissement est protégé au Canada, ce qui n'est pas le cas. Ils gagnent votre confiance en vous faisant investir de petites sommes au début et en vous montrant de faux profits à l'écran, mais les choses se compliquent lorsque vous voulez retirer vos placements. Des publicités trompeuses à leur sujet et détournant l'image de célébrités circulent sur le web et les médias sociaux. Comment les déjouer? Restez sur vos gardes face aux offres trop alléchantes et supposément sans risque. N'agissez pas trop vite. Méfiez-vous si des inconnus et même des proches vous promettent d'importants bénéfices en échange du recrutement de nouveaux investisseurs. Système pyramidal. Évitez les offres d'investissement faites sur les réseaux sociaux ou provenant de quelqu'un que vous n'avez pas sollicité. Avant d'investir, consultez le registre des entreprises et des individus autorisés à exercer de l'Autorité des marchés financiers, AMF, et informez-vous sur le site Web de l'Organisme canadien de réglementation des investissements, OCRI. Si vous choisissez d'investir dans les crypto-monnaies, malgré les risques, consultez la liste des plateformes de négociation de crypto-actifs inscrites à l'AMF et consultez la liste des mises en garde publiées au sujet de sites web et compagnies dont les activités sont potentiellement illégales. Arnaque 2. La partie de pêche. Hameçonnage. Comme son nom l'indique, l'hameçonnage, fishing en anglais, implique un hameçon. À l'autre bout du fil, il y a un pêcheur et vous êtes le poisson. Il existe diverses variantes selon le moyen de communication, comme le « smishing », l'hameçonnage par texto. Il s'agit sans nul doute de l'arnaque la plus répandue à l'échelle planétaire depuis l'invention du courriel. Chaque jour, des hameçonneurs lancent des milliards de lignes dans l'océan numérique en espérant que quelqu'un morde. Ces escrocs font des envois massifs de faux courriels et textos, apparemment authentiques. ils usurpent l'identité et le logo d'institutions publiques, du gouvernement, de corps policiers, de banques, de commerces en ligne et de toute autre société réputée. Comment ils s'y prennent? Les fraudeurs s'adaptent à l'actualité du moment. Ils changent constamment de l'heure pour obtenir vos renseignements personnels ou vous amener à cliquer sur un lien afin d'installer un virus ou un logiciel malveillant sur votre appareil. Voici quelques exemples. Offre de remboursement ou d'argent. Par exemple, un héritage inattendu. Vous avez remporté un prix alors que vous n'avez participé à aucun concours. Une action de votre part est requise de façon urgente. Au Québec, les principales identités usurpées sont Vidéotron, Hydro-Québec, Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada, la Banque nationale, Desjardins, Netflix et Poste Canada, selon la plateforme fraudealerte.ca. Comment les déjouer? Ayez un bon antivirus et faites vos mises à jour de sécurité. L'authentification à deux facteurs vous permet d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire pour protéger vos comptes. Ne cliquez jamais sur un lien inclus dans un courriel ou texto non sollicité et ne téléchargez pas de pièces jointes. Ne divulguez jamais vos mots de passe et vos codes d'accès. Ne répondez jamais à un courriel frauduleux, même pour vous désabonner. Signalez la tentative d'hameçonnage à votre service de messagerie électronique et à l'entreprise ou l'organisation dont l'identité a été usurpée. Ne présumez pas qu'un message est légitime s'il provient d'une adresse courriel qui semble crédible ou d'un numéro qui semble être le bon sur l'afficheur. Les fraudeurs peuvent les falsifier. En cas de doute, contactez directement l'organisme ou l'entreprise concernée. Arnaque 3. Le vol et la fraude liés à l'identité. Fléau des temps modernes, le vol d'identité génère un tas de problèmes pour ceux et celles qui en font les frais et qui ignorent souvent comment cela a pu se produire. Les arnaqueurs peuvent dérober vos renseignements personnels en volant votre courrier, en fouillant dans vos poubelles, en installant un virus sur votre ordinateur, en s'introduisant dans des bases de données d'individus, d'entreprises ou d'institutions, ou en vous hameçonnant pour que vous leur fournissiez vous-même les informations dont ils ont besoin. La fuite de données chez Desjardins, survenue en 2019, a marqué les esprits au Québec, puisque les renseignements personnels de 4,2 millions de membres et d'environ 173 000 entreprises ont pu se retrouver entre les mains de personnes malveillantes. Grâce à vos informations personnelles et à votre numéro d'assurance sociale, une personne peut facilement obtenir des marges de crédit illicites et vous entraîner dans des dettes considérables, rappelle l'Agence d'évaluation du crédit TransUnion. Comment ils s'y prennent? Les usurpateurs peuvent utiliser l'information volée ou reproduite pour accéder à votre compte de courriel, accéder à vos comptes bancaires et effectuer des transferts de soldes, ouvrir de nouveaux comptes à votre nom chez divers fournisseurs, faire des demandes de prêts et de cartes de crédit, acheter différents biens et services, obtenir un passeport ou toucher des prestations du gouvernement. Comment les déjouer? Ne donnez jamais vos renseignements personnels, sauf lorsque cela est absolument nécessaire et que vous avez totalement confiance en votre interlocuteur. Déchiquetez vos documents sensibles, par exemple, déclaration de revenus, relevé de carte de crédit. Vérifiez souvent vos relevés de comptes bancaires et de cartes de crédit, puis signalez rapidement toute irrégularité. Consultez votre dossier de crédit, Equifax, TransUnion, à l'occasion pour savoir si de nouvelles demandes ont été faites en votre nom. Videz régulièrement le cache de votre navigateur et supprimez périodiquement les témoins pour vous protéger des sites web non sécurisés. Rappelez-vous que les banques et institutions financières légitimes ne vous demanderont jamais vos données bancaires dans un courriel ou un texto, encore moins de cliquer sur un lien pour accéder à votre compte. Arnaque 4. Les arnaques sentimentales. On aurait tort de croire que ce type de fraude s'essouffle. En 2023, selon le Centre antifraude du Canada, les arnaques sentimentales faisaient encore partie des trois genres d'arnaques les plus lucratives au pays pour les escrocs, avec les fraudes à l'investissement et le harponnage, une version plus ciblée de l'hameçonnage, dirigée principalement vers les entreprises et les organisations. Les charmeurs du clavier, qui entretiennent une relation virtuelle avec leurs victimes dans le but de gagner leur confiance et leur affection, ont réussi à leur soutirer plus de 50 millions de dollars. Ces manipulateurs de haut niveau exploitent parfois pendant des semaines, voire des mois, la crédulité de gens qui cherchent l'amour en ligne. Comment ils s'y prennent? Ils créent généralement de faux profils sur des sites de rencontres et utilisent des photos séduisantes provenant d'autres sites. Après un certain temps, le fraudeur peut vous demander de lui envoyer de l'argent pour diverses raisons, frais de voyage ou frais médicaux d'urgence pour sa famille. Experts en manipulation, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour éviter une rencontre en personne et vous convaincre que leurs demandes sont légitimes. Comment les déjouer? Méfiez-vous si quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré vous déclare son amour. Assurez-vous de n'utiliser que des sites de rencontres légitimes et fiables. Lisez toujours l'adresse attentivement. Les fraudeurs imitent souvent les adresses de vrais sites. Soyez vigilant si la personne souhaite rapidement basculer vers un autre mode de communication, courriel, texto, WhatsApp, Google Hangouts, etc. N'envoyez jamais d'argent et ne donnez jamais de renseignements financiers sur un site de rencontre. Vous écoutez « Comment déjouer les fraudeurs », un texte de Jean-Luc Lavallée, paru le 25 juin 2024 dans « Protégez-vous ». Arnaque 5. L'extorsion et la sextorsion. Les rançongiciels, logiciels malveillants qui permettent de chiffrer, voler ou supprimer des données, sont une menace grandissante au pays. Les répercussions financières peuvent être dramatiques pour les personnes ou les entreprises sommées de payer une rançon pour retrouver l'accès à leurs données. Vous serez également en présence d'extorsion si on vous menace d'être convoqué en justice ou arrêté pour des crimes que vous n'avez pas commis, d'être expulsé du pays ou même d'être tué si vous ne versez pas d'argent. La sextorsion est, quant à elle, une autre forme de chantage. Un inconnu ou une personne qui a gagné votre confiance peut vous menacer de diffuser des photos ou des vidéos sexuellement explicites de vous, qu'il a réellement en sa possession ou non, si vous ne le payez pas. Plus vulnérables, les jeunes sont des cibles de choix des sextorqueurs. Comment ils s'y prennent? Ceux qui installent un rançongiciel sur votre ordinateur ont d'abord réussi à tromper votre vigilance en vous amenant généralement à télécharger un programme piraté ou à cliquer sur un lien, une image ou une pièce jointe dans un courriel ou un texto. Les courriels les plus menaçants font appel à vos émotions, peur, culpabilité, en créant un faux sentiment d'urgence pour vous forcer à agir rapidement. Les sextorqueurs réussissent souvent à convaincre leurs victimes d'échanger des images à caractère sexuel en amorçant l'envoi de photos pour les mettre en confiance et les convaincre de s'exhiber devant la caméra. Comment les déjouer? Faites des sauvegardes régulières de vos données et assurez-vous qu'elles sont conservées sur un support externe. Faites les mises à jour de sécurité sur vos appareils. Utilisez des mots de passe complexes et différents d'un site à l'autre, puis utilisez l'authentification à double facteur lorsque c'est possible. sachez que les corps policiers et autres organismes d'application de la loi n'exigeront jamais de paiement et ne menaceront pas de vous arrêter par courriel ou par téléphone. En cas de doute, communiquez directement avec eux. Ne cédez jamais aux menaces d'un sextorqueur en envoyant de l'argent ou de nouvelles images sexuellement explicites. Cela pourrait empirer les choses. Cessez de lui parler. Faites un signalement à la police. Dénoncez son profil aux grandes plateformes de réseaux sociaux. Les ados peuvent consulter les sites aidez-moi-s'il-vous-plaît.ca et cyberaide.ca. Arnaque 6. Les petites annonces et achats en ligne. Très utile, les plateformes de petites annonces en ligne comme Marketplace, Kijiji, les PAC ou Craigslist sont aussi devenues au fil du temps un terreau fertile pour les fraudeurs. Les fausses annonces de billets de spectacle, de chiots et de chatons, de matériel électronique, de chalets à louer, de voitures et autres véhicules à moteur sont légion. En 2023, la Sûreté du Québec à elle seule a recensé plus de 1000 dossiers de fraude, principalement sur Facebook, Marketplace et Messenger. Les fraudes liées à des marchandises contrefaites, de qualité douteuse ou encore à de faux sites web transactionnels sont également très nombreuses, selon le Centre antifraude du Canada. Comment ils s'y prennent? Les fraudeurs peuvent se cacher sous une véritable identité, acheteur ou vendeur, en piratant des comptes Facebook. De faux acheteurs sur Marketplace proposent souvent de faire affaire avec un livreur qui vous remettra l'argent en main propre. Or, c'est vous qui devrez payer en premier pour une assurance bidon qu'ils ne vous rembourseront jamais malgré leurs promesses. Les fraudeurs peuvent vous demander un acompte ou le paiement en totalité sans que vous puissiez vérifier si l'objet existe réellement. Pour écouler des marchandises contrefaites à des prix anormalement bas, les faussaires peuvent utiliser des sites web qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de fabricants légitimes. Ils achètent aussi de la pub sur les réseaux sociaux. Comment les déjouer? Ne transférez pas d'argent à un vendeur rencontré sur un site de petites annonces avant d'avoir le bien en main. Méfiez-vous de ceux qui exigent un dépôt important. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire une transaction à votre domicile ou à celui d'un vendeur, demandez-lui de vous rencontrer dans un endroit public pour effectuer l'échange. Plusieurs villes ont aménagé des zones neutres, sécurisées par des caméras de surveillance. Commerce en ligne. Si vous avez un doute sur l'authenticité d'un vendeur, utilisez ScamDoc, qui permet d'évaluer gratuitement la fiabilité d'un site web ou même d'une adresse courriel. Arnaque 7. Les faux logements. Dans les dernières années, les corps policiers ont constaté que le nombre de plaintes concernant des annonces bidons de logements à louer a explosé dans toutes les grandes villes. Les filous profitent de la pénurie criante de logements et de la vulnérabilité de ceux qui cherchent désespérément un nouveau toit. Les annonces de faux logements ou de vrais logements dont ils ne sont pas propriétaires pullulent sur les sites d'annonces comme Marketplace, Kijiji, les PAC et Craigslist. Comment ils s'y prennent? Selon le service de police de la ville de Montréal, les fraudeurs demandent généralement à leur proie un dépôt allant entre 500 et 1200 $ pour visiter les lieux. Le Code civil du Québec est clair. Un propriétaire ne peut exiger un dépôt de garantie. Seul le premier mois de loyer peut être réclamé à l'avance, au moment de la signature du bail. Le loyer mensuel annoncé est souvent attrayant, tout en demeurant crédible. Le propriétaire n'est pas joignable au téléphone et il invoque toutes sortes de prétextes pour éviter de se déplacer, inutilement. Comment les déjouer? Méfiez-vous des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Elles viennent probablement d'un fraudeur. Assurez-vous que l'adresse du logement est indiquée dans l'annonce. vérifiez si l'immeuble existe bel et bien sur Google Maps, puis entrez les informations dont vous disposez, adresse, courriel dans l'annonce, nom de la personne, etc., dans un moteur de recherche afin de savoir si d'autres internautes ont déjà signalé une arnaque. Les fraudeurs utilisent parfois des photos professionnelles provenant d'annonces légitimes. Utilisez Google Images pour vérifier si une photo est utilisée sur d'autres sites. Visitez l'appartement avant de verser une somme d'argent ou de signer quoi que ce soit. Consultez le rôle d'évaluation foncière de la municipalité pour valider le nom du propriétaire. Arnaque 8. Les colporteurs trop insistants. Les fraudeurs ne se cachent pas toujours derrière un écran. Les plus culottés n'hésiteront pas à se pointer à votre domicile pour vous offrir en personne toutes sortes de produits et services dont vous n'avez pas besoin. Thermopompe, inspection de votre entretoit, asphaltage de votre entrée. Très habiles, ces manipulateurs ne manquent pas de bagout pour vous amadouer et vous convaincre de faire affaire avec eux. Ils peuvent vous flouer en disparaissant avec votre argent, en vous vendant de la camelote ou en vous faisant payer beaucoup trop cher pour un service qui n'en valait pas le coup. Comment ils s'y prennent? La fausse représentation est monnaie courante. Par exemple, économie d'énergie surévaluée ou accès à des subventions. Les arnaqueurs sont spécialisés dans la vente sous pression. C'est maintenant ou jamais. Ils sont souvent bien vêtus ou portent même un gilet de sécurité ou un uniforme pour ajouter à leur crédibilité. Comment les déjouer? N'acceptez jamais une offre et ne concluez jamais un marché sur le champ. Insistez pour que l'on vous accorde un temps de réflexion. Dans tous les cas, demandez d'autres avis et comparez les prix. Renseignez-vous sur un commerçant. A-t-il son permis de vente itinérante délivré par l'Office de la protection du consommateur? Ou a-t-il déjà reçu des avis d'infraction en matière pénale ou des mises en demeure? Avant de signer quoi que ce soit avec un commerçant, vérifiez aussi si des jugements sont inscrits en matière civile contre lui à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure sur le site jugement.qc.ca. Pour des travaux de construction ou de rénovation, vérifiez si une entreprise détient sa licence de la Régie du bâtiment du Québec. Vous avez signé un contrat avec un vendeur itinérant? Vous avez 10 jours pour l'annuler. Vous écoutez « Comment déjouer les fraudeurs », un texte de Jean-Luc Lavallée, paru le 25 juin 2024 dans « Protégez-vous ». Partie 3. Petit guide pratique à l'intention des victimes. Quel mode de paiement devriez-vous privilégier pour minimiser les risques liés à la fraude et quelles sont vos chances d'être remboursé? Découvrez aussi les étapes à suivre si vous tombez aux mains des escrocs et consultez notre répertoire de ressources utiles. Puisqu'il existe des milliers de fraudes, les circonstances de chacune d'entre elles, vos propres agissements ainsi que le moyen utilisé par les fraudeurs auront une incidence capitale sur vos chances d'obtenir un remboursement, intégral ou partiel, ou de devoir dire adieu aux sommes dérobées. De façon générale, les probabilités de revoir la couleur de votre argent sont nettement inférieures si la fraude implique un paiement comptant, un transfert d'argent à l'international, une carte cadeau, un chèque, à moins qu'il soit post-daté, ou une traite bancaire. Mieux protéger avec le crédit. Si la transaction a été réglée par carte de crédit, vous aurez peut-être plus de veines. La loi sur la protection du consommateur prévoit que vous avez une responsabilité maximale de $50, comme le rappelle Maître Alexandre Plourde, avocat et analyste à Option Consommateur, à moins d'avoir été très négligent en révélant votre numéro d'identification personnelle, NIP, par exemple. Par ailleurs, l'achat à distance par carte de crédit vous permet de faire une demande de rétrofacturation en cas de problème. Quant à la carte de débit, malheureusement, la protection légale est moindre, se désole Maître Plourde. Le Canada est en retard en matière d'encadrement des modes de paiement. Il n'y a pas de cadre de protection uniforme. Une responsabilité partagée. L'avocat s'inquiète de voir de plus en plus de victimes ayant de la difficulté à se faire rembourser parce que les banques les tiennent responsables de leur propre malheur. À mon avis, les banques ont un rôle important là-dedans. C'est à elles de sécuriser leur système pour détecter les opérations suspectes et avertir les consommateurs, ajoute-t-il. L'Association des banquiers canadiens, via sa porte-parole, Maggie Chung, dit en faire déjà beaucoup pour sensibiliser les clients qui ont aussi un rôle à jouer. Dans un monde connecté, les cybermenaces ne se limitent pas aux systèmes et aux technologies des institutions financières. La sécurité est devenue une responsabilité commune. Les clients doivent demeurer vigilants. Si vous avez été victime d'une fraude et que vous êtes insatisfait du traitement du dossier par votre institution financière à la suite d'une demande d'indemnisation, sachez que vous devez d'abord déposer une plainte auprès d'elle. Si le litige persiste, vous pouvez ensuite vous adresser à l'Autorité des marchés financiers pour les institutions régies par des lois provinciales, comme Desjardins, ou à l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement, OSBI, au fédéral. Quoi faire en cas de fraude? 1. Avisez votre institution financière. Il est impératif d'agir le plus vite possible pour limiter les dégâts dès que vous découvrez l'existence d'une fraude. Même en cas de doute, prévenez sans tarder votre institution ou l'émetteur de votre carte de crédit. 2. Contactez la police. Tout acte frauduleux est un geste criminel qui doit être signalé aux policiers. Portez plainte en appelant votre service de police local. 3. Signalez la fraude à Equifax et à TransUnion. Contactez par téléphone ou Internet les deux agences nationales d'évaluation du crédit pour signaler la fraude. Depuis 2023, il est désormais possible de verrouiller votre dossier pour bloquer toute nouvelle demande de crédit. Equifax 1-800-465-7166. TransUnion 1-877-713-3393. 4. Avertissez le Centre antifraude du Canada. Le signalement est essentiel pour permettre aux autorités de mesurer l'ampleur du phénomène, de détecter des fraudes émergentes et d'alerter les citoyens. Le Centre antifraude du Canada, CAFC, vous invite à le faire en ligne ou au 1-888-495-8501. Il travaille en partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada, la police provinciale de l'Ontario et le Bureau de la concurrence. L'IA au service des fraudeurs. L'intelligence artificielle, IA, risque d'avoir des impacts considérables dans les années à venir et de vous compliquer la vie pour détecter la tromperie. Ça amène de nouveaux défis pour les citoyens. Les fraudeurs peuvent se servir de ça pour bâtir des stratégies personnalisées, imiter le style et le ton des expéditeurs. Ce qui prenait du temps, des efforts et de l'analyse avant peut maintenant être automatisé, expose Alex Bédard, un spécialiste en cybersécurité à ProMutuel, qui a déjà présidé l'Association de la sécurité de l'information du Québec. Des fraudeurs se servent déjà de l'hyper-trucage pour produire des vidéos au réalisme saisissant. Quant au clonage de la voix pour imiter un proche, les corps policiers disent n'avoir encore aucune preuve de son utilisation au Québec, malgré les témoignages médiatisés de plusieurs victimes de fraude. On sait toutefois que la technologie existe. Armez-vous. Apprenez en plus sur les stratagèmes des fraudeurs en consultant les outils suivants. Le site fraude-alerte.ca qui vous permet de vous renseigner rapidement sur une potentielle fraude et d'alerter en temps réel les autres visiteurs du site. Plus de 7000 arnaques regroupées dans 12 catégories y sont répertoriées. Le petit livre noir de la fraude du Bureau de la concurrence, la trousse de cybersécurité préparée par l'Association des banquiers canadiens, la page prévention de la fraude sur le site de l'Autorité des marchés financiers, AMF, la page les fraudes liées aux cryptoactifs de l'AMF, la page cryptoactifs du site de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. C'était « Comment déjouer les fraudeurs », un texte de Jean-Luc Lavallée, paru le 25 juin 2024 dans « Protégez-vous ».
Programme Espoir, faire renaître l'espoir pour sortir de l'itinérance, un texte de Marianne Liendeau-Dufort, paru en novembre 2024 dans le magazine Profession Santé. Entre 2018 et 2022, la population sans domicile fixe est passée de 168 à 464 individus dans la région des Laurentides. Des intervenants de divers horizons ont uni leurs forces pour aider ces personnes dans le besoin et leur redonner de l'espoir. Espoir, c'est justement le nom de ce groupe interprofessionnel de soutien créé en avril 2022 et dont l'acronyme signifie « Équipe de suivi de proximité offrant de l'intervention en réinsertion ». À ses débuts, l'équipe n'était composée que d'un intervenant psychosocial et d'une infirmière. Mais elle a cru, au même rythme que les nombreux besoins de la population en situation d'itinérance des Laurentides. Elle est aujourd'hui composée d'intervenants cliniques spécialisés en itinérance et dépendance, d'infirmières, de psychiatres, de médecins et même d'un chien d'assistance. Ces intervenants de terrain travaillent de concert avec les autres acteurs locaux tels que la police, les municipalités et les organismes communautaires afin de soutenir les personnes dans le besoin. C'est ça la force du programme Espoir, l'esprit de collaboration et de solidarité, affirme Émilie Contant, chef d'administration d'Espoir, qui est rattaché au programme régional du réseau d'éclaireurs en santé psychologique et des dossiers transversaux du CIS des Laurentides. Grâce à cette collaboration de tous les acteurs de la communauté, les membres de l'équipe d'Espoir peuvent intervenir à même le milieu de vie des personnes en situation d'itinérance, poursuit-elle. Dans ce travail de proximité, l'intervenant canin Louis, un bulldog français, constitue un allié de premier ordre. Louis a la capacité de voir la souffrance des personnes, que ce soit des signes de stress, de dépression, des hallucinations, bref, des gens qui ne vont pas bien, illustre Émilie Contant. Une problématique aux multiples visages. Avec la pandémie de COVID-19, la crise du logement et le manque de ressources en santé mentale, l'itinérance en région est une réalité relativement nouvelle et qui prend de l'ampleur, estime la chef du programme. Le visage de l'itinérance a changé, explique-t-elle. Il n'y a plus un visage de l'itinérance, justement. Car, au sein de la population itinérante, il y a d'autres groupes vulnérables tels que des individus autochtones ou faisant partie de la communauté LGBTQ+. C'est toute une stigmatisation que peuvent vivre ces personnes, reconnaît Émilie Contant. Selon elle, la population itinérante comporte aussi un plus grand nombre de personnes âgées et de personnes en situation de perte d'autonomie à un plus jeune âge. Elle remarque également une hausse des migrants en situation d'itinérance, et même des familles. Les défis auxquels font face ces personnes varient eux aussi beaucoup. Trouver un logement, chercher un emploi, entamer les démarches de réinsertion sociale ou accéder à un médecin. Les membres de l'équipe du programme Espoir les assistent à travers tous ces processus afin de maximiser leurs chances de réussite. Au cours de la dernière année, c'est d'ailleurs presque 600 individus qui ont pu bénéficier du soutien des membres du programme Espoir. Ce nombre inclut des personnes encore en situation d'itinérance, mais aussi plus de 110 personnes qui ont pu trouver un logement permanent grâce à cette aide précieuse. Les membres de notre équipe vont les amener du point A au point B, souligne Émilie Contant. Ce sont des intervenants passionnés qui ne comptent pas leurs heures. Le bien-être des personnes est vraiment ce qu'il y a de plus important pour eux. C'était Programme Espoir, faire renaître l'espoir pour sortir de l'itinérance, un texte de Marianne Liendeau-Dufort, paru en novembre 2024 dans le magazine Profession Santé.
Des allergies aux noix causées par l'alcool. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 19 décembre 2024 dans la presse. Des arômes présents dans certains alcools pourraient causer des réactions allergiques sévères, selon une nouvelle étude de l'Université McGill. Les chercheurs constatent aussi que les adultes qui se savent allergiques n'utilisent pas assez l'épinéphrine avant d'aller aux urgences. On savait que la consommation d'alcool augmente la sévérité des réactions allergiques, explique Roy Calaf, auteur principal et étudiant en médecine à la Faculté de médecine de l'Université McGill, qui est l'un des co-auteurs de l'étude publiée dans les International Archives of Allergy and Immunology. Nous avons constaté que l'alcool est plus souvent associé aux allergies aux noix. Notre hypothèse pour expliquer cette nouvelle observation, c'est que certains alcools ont des arômes de noix. M. Calaf cite par exemple l'amaretto, le galliano ou l'amadeus. Même les arômes artificiels pourraient être en cause. L'étude a analysé les dossiers de 1135 adultes qui se sont présentés pour une réaction allergique aux urgences du Cusum entre 2011 et 2023. La moitié des cas concernaient des allergies aux noix. Dans ce groupe, un patient sur six avait consommé de l'alcool avant la réaction allergique. D'autres études ont montré que l'alcool augmente le risque de réaction allergique grave parce qu'il provoque de la vasodilatation, l'augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins, selon M. Calaf. La vasodilatation accentue le choc anaphylactique, l'arrêt de la respiration souvent associé aux réactions allergiques graves. D'autres hypothèses existent pour expliquer le fait que l'alcool augmente la gravité des réactions allergiques, note l'étude. Mais l'alcool est davantage présent chez les patients ayant des réactions allergiques aux noix par rapport à ceux qui arrivent aux urgences à cause d'une réaction allergique à d'autres aliments, comme le lait ou le poisson, ou à une piqûre d'insectes ou à des médicaments. C'est ce qui a amené les chercheurs de McGill à postuler un effet allergique des arômes de noix dans certains alcools. Une réaction différente selon l'âge? L'étude visait à déterminer si les symptômes des adultes qui arrivent aux urgences à cause d'une réaction allergique sont différents des enfants. Ce n'est pas le cas. Deux autres analyses ont été faites dans cet échantillon de 1135 adultes. L'une, voir quel type d'alcool était associé à des réactions allergiques aux noix, n'a pas donné de résultats parce que les patients n'avaient pas indiqué cette information. L'autre, sur les symptômes différents chez les personnes âgées par rapport aux adultes de moins de 65 ans, fera l'objet d'une publication dans les prochains mois. On veut aider les urgentologues à reconnaître plus rapidement les réactions allergiques graves, dit M. Calaf. Épinéphrine. L'autre impact clinique de l'étude qui vient d'être publiée sera sur les patients. On voit beaucoup de gens qui ont déjà eu une réaction anaphylactique et donc qui, normalement, ont une prescription d'épinéphrine, qui arrive aux urgences sans en avoir reçu, dit M. Calaf. Or, la gravité des réactions allergiques est moins grande si on reçoit rapidement de l'épinéphrine. L'épinéphrine est un médicament contrant une réaction allergique qui se donne par injecteur, relativement facile à utiliser. On veut comprendre pourquoi les gens ne se sont pas servis de leur injecteur, dit M. Calaf. Avec les enfants, souvent les parents hésitent à s'en servir. Peut-être que les adultes ne le traînent pas avec eux ou alors ne renouvellent pas la prescription. En savoir plus. Source: Canadian Anaphylaxis Initiative. 2,5 millions, nombre de Canadiens qui ont déjà eu une réaction allergique grave. 3500, nombre de Canadiens qui ont une réaction allergique alimentaire grave chaque année. 10 à 15, nombre de Canadiens qui meurent d'une réaction allergique alimentaire grave chaque année. C'était « Des allergies aux noix causées par l'alcool », un texte de Mathieu Perrault, paru le 19 décembre 2024 dans La Presse.
Le branding des générations, un texte de Mario Girard paru le 27 août 2023 dans La Presse. J'ai découvert que j'appartenais au groupe des baby-boomers vers l'âge de 16 ans. Je me souviens m'être dit qu'il devait y avoir une erreur, car je trouvais que je n'avais rien à voir avec ces vieux croutons. Né en 1961 dans la queue de cette cohorte mal aimée, je me tenais loin des Beatles, préférant nettement les Bee Gees, Plastic Bertrand et Harmonium. Cherchez l'erreur. Plus tard, vers l'âge de 30 ans, quand j'ai entendu dire que les Baby Boomers avaient défriché les champs, créé des mouvements contre-culturels et mis sur un piédestal le concept de la jeunesse, je ne me suis pas reconnu une miette. Je n'ai fait aucune révolution, sinon d'avoir occupé pendant 24 heures mon cégep lors du mouvement étudiant de 1978 avant de rentrer chez moi végéter devant la télévision. Rien à voir avec les manifs contre la guerre au Vietnam ou les émeutes de Stonewall. Je ne me suis pas davantage reconnu dans les boomers lorsqu'on a dit qu'ils l'avaient eu facile et qu'ils n'avaient qu'à tirer sur une corde pour obtenir un emploi d'été subventionné par des programmes gouvernementaux. Pendant mes études, j'allais retrouver mes amis dans des bars avec le doux parfum de celui qui a fait cuire du poulet frit Kentucky pendant 8 heures. Bref, je suis un baby-boomer qui se sent comme le chien macaire dans quelle famille. Je suis un baby-boomer qui en est un parce qu'on l'oblige à faire partie de ce groupe. Au cours des derniers mois, je suis tombé sur des reportages concernant la génération des jeunes nés entre 2010 et 2020. Comme on s'était rendu au bout de l'alphabet avec les générations X, Y et Z, on est revenu au début, en passant du latin au grec, en affublant cette génération du nom d'alpha. C'est à une firme conseil spécialisée en sciences sociales établie en Australie que l'on doit ce terme créé en 2008. Évidemment, les étiquettes pour décrire ceux qui auront 20 ans en 2030 n'ont pas tardé. Les alphas sont, ou seront, casaniers, angoissés et hyperactifs. Comme ces jeunes sont nés après l'apparition des tablettes et des téléphones intelligents, on nomme ce groupe « génération de verre ». Imaginez un instant, tu as 13 ans, tu n'as pas encore vécu ton premier French, tu n'as aucune idée si tu vas t'inscrire en technique d'hygiène dentaire ou en théâtre plus tard, tu n'as pas encore versé le moindre dollar dans un REER et on te couvre la face d'étiquettes de toutes sortes. Baby Boomers, Génération X, Génération Y ou Millénario, Génération Z, Alpha, ça n'a pas de fin. Et attendez, ce n'est pas tout. On parle maintenant de la génération post-pandémie. Je n'en peux plus de voir apparaître ces désignations qui véhiculent des tonnes de clichés qui ne tiennent pas la route. J'ai toujours compris qu'une génération s'étalait dans le temps sur une période d'environ 20 ans. Aujourd'hui, Les groupes qui posent dans nos sociétés sont nommés à la vitesse de l'éclair par des experts en marketing. Ceux qui ont nommé la génération Alpha avaient tellement hâte de le faire qu'ils ont ramené à 10 ans la durée de la génération précédente, soit celle des Z, 2000-2010. Pour m'assurer que je ne faisais pas fausse route, je me suis entretenu avec Jacques Hamel, professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal, qui suit de près l'évolution de ces phénomènes. J'ai l'impression de voir apparaître subitement une nouvelle génération tous les 6 mois, m'a-t-il dit. C'est franchement déraisonnable. De qui parle-t-on au juste? On ne sait pas vraiment. En effet, d'où vient cet empressement à décrire une génération avant même qu'elle n'ait eu le temps de se réaliser, de s'exprimer? Mais qu'est-ce qui caractérise une génération, au fait? Jacques Hamel s'appuie sur la définition du philosophe allemand Wilhelm Dilthey, qui a écrit qu'une génération est un cercle assez étroit d'individus qui sont reliés en un tout homogène par le fait qu'ils dépendent des mêmes grands événements et changements survenus durant leur période de réceptivité. Ces événements peuvent être des crises économiques, des conflits majeurs, des mouvements sociaux ou des phénomènes culturels. Ce qui m'embête, c'est que ce ne sont plus des événements sociaux qui définissent les générations, mais des produits. La génération Alpha est associée à des bébelles électroniques, nous dit Jacques Hamel. L'autre chose qui est énervante dans cette obsession de nommer les groupes, c'est que les gens qui font partie d'une même génération ne sont évidemment pas tous pareils, ne partagent pas toutes les mêmes valeurs. Et puis, une génération, ça bouge, ça change, ça évolue. En inventant des étiquettes, on fige les générations et on rassemble en un même bloc ceux qui en font partie. Finalement, et c'est sans doute l'aspect le plus dommageable, cette folie de l'étiquette contribue à une guerre de clichés que chaque génération renvoie aux autres quand vient l'inéluctable désir de prendre sa place. Les boomers ont eu tout cuit dans le bec. Les X sont individualistes. Les Y sont dans l'immédiateté. Les Z sont des enfants gâtés qui veulent tout avoir tout de suite. Et si on mettait de côté ces satanées étiquettes et ces préjugés qu'on brandit souvent à tort? Et si on laissait chacun avancer comme il veut et comme il peut? Dans sa chanson « Ma génération », Luc de la Rochelière dit « Il n'y a plus d'histoire à raconter, que des rêves à inventer. » Pourrait-on laisser le temps aux générations d'inventer leurs rêves et de les vivre? C'était « Le branding des générations », un texte de Mario Girard paru le 27 août 2023 dans la presse.